Il est 9h41, l'instant M, c'est reparti pour une nouvelle semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Nous vous devons la vérité, l'humanité est en danger. Ainsi, l'alerte a-t-elle été lancée le 10 mars dernier. Ce n'est pas le premier appel aux dons pour enflouer ce journal, mais cela pourrait-il être le dernier. L'UMA peut-il tout simplement disparaître s'il n'est pas racheté? Oui, mais racheté par qui? Quel puissant aurait intérêt aujourd'hui à investir dans l'humanité si l'humanité reste l'humanité? Bonjour Patrick Appelmüller.
Bonjour Sonia Lider.
Vous êtes directeur de la publication du quotidien dont le cahier Centrale regroupe ce matin une partie des témoignages d'artistes et d'intellectuels qui écrivent pour vous soutenir. D'abord, on va parler un peu d'actu télé, puis Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Son après-coup du lundi, une sorte de retour vers le futur, vous verrez. Hashtag Instant M.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Alors, il n'y a pas que l'humanité à lire ce matin, il y a également une double page du Parisien, fort bien faite. Toutes les émissions qui sautent, les animateurs qui arrivent, les programmes qui se remodèlent sur les antennes de France Télé, un Big Bang d'une ampleur inédite dans l'histoire de la 2, de la 3, de la 4 et de la 5. On y apprend notamment que C'est politique, Caroline Roux, le dimanche sur France 5, laissera sa place à une émission politique d'un nouveau genre, que la 2 a choisi Laurent Bon, le producteur du Petit Journal, pour concevoir sa nouvelle émission culturelle, titrée Stupéfiante, et que Christophe Ondelat vous emmènera aux Assises sur France 3.
Le verdict des jurés d'Evreux n'a rien à voir avec l'idée qu'on se faisait de l'affaire au départ.
Voilà, on a dépensé plein d'argent. Mais que pour des bonnes choses, hein.
Alors, qui dépense de l'argent? Eh bien, c'est Dana Astier, patronne de France 3. France Télé vient de publier des comptes à l'équilibre. Nos chaînes publiques ne sont plus en déficit, mais elles enregistrent des pertes d'exploitation, et ça, on le dit beaucoup moins, des pertes d'exploitation d'environ 30 millions d'euros, moins de pubs que prévu et des grilles coûteuses. Alors oui, les nouveaux directeurs de chaînes veulent imprimer leurs pattes à la rentrée, mais ce qu'on souligne moins sur les choix opérés, c'est que France Télé fait des économies drastiques sur les programmes. Alors, Bruno Donnet, ça va ?
Présent.
Présent. Jeudi, Bruno, vous avez regardé iTélé et vous avez été terrorisé par un fantôme.
Oui, Sonia, terrorisé, c'est le mot juste. Car figurez-vous qu'il y était très précisément question de terroriste. Et pas de n'importe lequel, s'il vous plaît, puisqu'on y causait de Salah Abdeslam, le type qui est soupçonné d'avoir dessoudé 130 personnes dans les attentats du mois de novembre à Paris. Et si j'ai été terrorisé, c'est d'abord par la vacuité abyssale de ce que j'ai vu. Je vous raconte le topo. Il était 15h38 lorsque j'ai entendu le présentateur de la tranche d'information nous annoncer ceci.
Salah Abdeslam, découvert par hasard par des journalistes sur des images d'archives.
Voilà, alors je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'ils ont bien pu trouver? Qu'est-ce qu'on voit sur ces fichues images? Est-ce qu'on y découvre Salah Abdeslam en Syrie, en train de fabriquer une ceinture d'explosifs ou d'étudier les plans du Bataclan? Eh ben non, rien de tout ça, car écoutez bien de quel genre d'images il s'agissait.
Des images qui datent de 2014 et sur lesquelles on voit le terroriste présumé se promener tranquillement dans un marché bruxellois.
Voilà, on aperçoit donc Abdeslam 22 secondes et demie déambulé sur un marché entre des sacoches en cuir et des pantoufles suspendues à un étal. Alors où est l'information là-dedans? Nulle part. Et qu'est-ce qui nous intéresse? Que dalle, puisqu'on connaissait déjà malheureusement la trombine du salopard présumé. V'là pour la vacuité. Et maintenant, maintenant, faut que je vous parle du mode de traitement, Sonia. Car non content d'avoir dégoté des images spectaculairement inintéressantes, les gros malins d'iTélé ont décidé de les faire commenter. Oui madame, ça s'appelle un sujet. Alors, je vous ai donc expliqué très précisément ce qu'on voyait, hein, un type qui marche comme tout le monde entre des stands. Eh bien, écoutez donc comment la journaliste a décrit ces images.
À gauche de la foule, tel un fantôme, apparaît Salah Abdeslam.
Tel un fantôme, sans déconner. Le mec porte un jean et un gilet noir, pas un drap ou un suaire. Hein. Il arpente un marché et d'après la fille d'iTélé, il apparaît tel un fantôme, dis donc. Alors, à toutes fins utiles, je rappelle qu'un fantôme, c'est l'apparition surnaturelle de quelqu'un qui est mort. Or, là, le type est bien vivant et il marche tout à fait naturellement. Alors, pourquoi cette journaliste utilise-t-elle le mot fantôme? Eh bien, peut-être. Parce qu'elle opère ce que les psychanalystes appellent une projection. Mmh. C'est-à-dire qu'elle attribue à autrui un problème qui la préoccupe elle. Car elle est tellement consciente qu'il n'y a aucune information dans son sujet qu'elle le dit carrément à la fin.
En 2014, sur ce marché, encore rien à signaler.
Eh oui, en 2014, Abdeslam n'avait encore rien fait de répréhensible. Il n'y avait donc strictement rien de surprenant à le voir se balader, peinard, sur un marché. Le fantôme n'est donc pas lui, mais bel et bien le degré d'information contenu dans cette petite séquence. Une séquence tout à fait symptomatique du fonctionnement des chaînes info, dont la principale difficulté consiste trop souvent à réussir à occuper l'antenne avec des informations dont le niveau d'intérêt, parce qu'il est mort avant même d'être né, nous apparaît comment ?
Tel un fantôme.
Voilà, ça me faisait plaisir de vous le redire.
Bah oui, c'est ce qu'on appelle du journalisme fantomatique, non, Patrick Appelmüller ?
Oui, absolument, c'est impressionnant. La démonstration est faite d'un certain type d'information. Je crois que l'humanité est à l'opposé de ça.
Eh ben, on va en parler.
L'instant M sur France Inter.
Voilà, ruiné comme Athènes. Soviète suprême, que la fête de l'UMA avait eu l'humour d'inviter l'année dernière. Il y avait eu Soviète suprême et il y avait eu aussi Lénine Renault, non ?
Oui, tout à fait, tout à fait.
C'est là où je me dis, les communistes ont quand même beaucoup d'humour dans les années 2010. Ruiné comme Athènes, c'est la situation très grave du quotidien qui ne tient plus qu'à un fil. C'est votre directeur, le député européen Patrick Le Yarrick, qui l'a écrit. Avec cette précision, l'UMA perd 50 centimes d'euros par numéro vendu. Alors, Patrick Appelmüller, j'ai sorti ma calculatrice. Vous tirez 52 000 exemplaires par mois, c'est le JD qui le dit. Vous en vendez 36 000. Ça veut dire que vous perdez, selon mes calculs, 18 000 euros par jour. Ça fait 486 000 euros par mois. Ça fait 5 800 000 euros de pertes par an. Est-ce que l'UMA perd 6 millions d'euros par an ?
Non, nous avons limité ces pertes, notamment au prix de mesures assez sévères sur nos fonctionnements. Mais comme tous les quotidiens, tous les autres quotidiens français, nous perdons de l'argent dans notre exploitation. La différence, c'est que nous n'avons pas des actionnaires du CAC 40 qui soit rachètent le journal, soit le recapitalisent. Nous n'avons pas non plus la publicité à laquelle nos lecteurs devraient avoir droit, parce qu'ils la financent. Chaque fois qu'ils achètent un yaourt, ils payent une part de publicité qu'ils ne revoient pas dans leur journal préféré. Nous sommes dans une situation qui est très difficile, et l'existence de l'humanité, sans la réaction qui est en train de prendre corps aujourd'hui, est menacée dans les semaines ou dans les mois qui viennent.
Et menacée, c'est-à-dire l'humanité peut disparaître avant la fin de l'année.
L'humanité peut disparaître
avant la fin de l'année 2016.
Oui, si la mobilisation à la fois de ses lecteurs, des démocrates autour d'elle, mais aussi des pouvoirs publics, ne se manifeste pas à la hauteur. Et nous verrions donc le seul
journal... Parce qu'en même temps, elle paye cette mobilisation, mais elle paye peu. C'est-à-dire la dernière fois que Patrick Le Yarrick a fait dans vos colonnes le compte des 700 000 euros heureusement récoltés. Et vous ne cessez de remercier ceux qui vous soutiennent. Et dans le cahier central que vous publiez ce matin, vous donnez les noms des donateurs parce que vous leur rendez hommage et que vous leur rendez grâce. Mais 700 000 euros par rapport aux chiffres dont je viens de parler, même si vos pertes vous les avez limitées, c'est rien. C'est pas ça qui vous sauvera.
Ça ne suffira pas.
Non.
Et il est nécessaire de développer une action dans plusieurs sens. D'une part, gagner et regagner des lecteurs. On invite nos lecteurs eux-mêmes à faire des abonnements de découverte au journal. On appelle aussi les organisations progressistes. Ça va du champ de l'économie sociale et solidaire, les syndicalistes, les militants de gauche, à se mobiliser pour le journal. Et puis, nous les invitons aussi à faire pression sur les pouvoirs publics, parce qu'il y a quand même un paradoxe énorme à ce que les journaux qui sont soutenus par les principales fortunes françaises soient les plus aidés par l'État, alors qu'un journal comme l'Humanité...
Le Monde et le Figaro.
Le Monde et le Figaro, oui, sont aujourd'hui les journaux les plus aidés, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'Humanité. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est de développer autour du journal une sorte de bouclier démocratique qui permette que l'uniformité ne devienne pas dans la presse une infirmité démocratique. démocratique qui affecte le débat d'idées. Nous choisissons d'être différents de l'ensemble de la presse qui appuie les mesures d'austérité, qui appuie aujourd'hui la loi El Khomri. Nous sommes du côté de ceux qui sont aux nuits debout, ceux qui manifestent dans les rues, ceux qui se posent aussi des questions. Nous voulons être un journal où le débat d'idées prenne toute sa place. Nous en avons fait même la colonne vertébrale du journal. C'est au cœur du journal ce débat d'idées, et il accueille des gens d'opinions très diverses, à la fois pour permettre aux lecteurs, dont nous jugeons qu'ils sont des intelligences libres, de se faire leur propre idée, de se faire leur propre opinion, mais également pour permettre à tous ceux qui se posent les questions d'une transformation de la société pour qu'elle soit plus juste et plus humaine, d'échanger, de confronter leurs visions et leurs
opinions. Alors, on va y venir, mais par exemple, j'ai lu également dans vos colonnes, sous la plume de Patrick Le Yarrick, depuis quelque temps, de nombreuses pressions institutionnelles, politiques et économiques s'exercent sur l'humanité. Que cela signifie-t-il ?
Cela signifie qu'il y a effectivement des pressions. On voudrait pousser l'humanité soit à se vendre à un des actionnaires du CAC 40.
Qui pousse l'humanité à se vendre ?
Les circonstances qui sont faites au journal, et notamment du point de vue des pouvoirs publics, poussent le journal soit à mettre la clé sous la porte, soit à se vendre à des actionnaires du CAC 40.
Alors, les actionnaires du CAC 40, est-ce que vous êtes prêt à laisser les très fortunés actionnaires du monde entrer dans l'humanité ? Est-ce que vous êtes prêt à laisser rentrer Pierre Berger, Mathieu Pigas ou Xavier Niel, qui ont énormément d'argent, qui investissent tous azimuts et qui, aujourd'hui, sont les seuls, finalement, à recapitaliser une presse dite de gauche ? En tout cas, à lui garantir ce créneau idéologique-là.
Eh bien, nous ne voulons pas que quiconque prenne le contrôle du capital du journal en dehors de ses lecteurs, de ses personnels, de ses diffuseurs, de ses amis, de ceux qui sont aujourd'hui autour du journal.
Alors, laisser prendre ce type d'actionnaire le capital et de le contrôle, hein, et les laisser entrer,
Après, si des gens qui ont beaucoup d'argent sont prêts à en mettre dans l'humanité sans contrôler le journal, mais comme un témoignage d'adhésion au pluralisme...
Vous prenez l'argent de Xavier Niel.
Nous prendrons l'argent qui est donné sans contrepartie sur les contenus du journal. Parce que c'est une vieille histoire de l'humanité. Vous savez, l'humanité est en difficulté depuis qu'elle est née. C'était il y a 112 ans aujourd'hui.
Oui, c'est votre anniversaire.
Voilà, c'est notre anniversaire. Oui. Et Jaurès, dès le début, avait souligné la difficulté qu'il y avait à faire un journal indépendant des puissances d'argent. 2 ans après, l'humanité était au bord du gouffre, selon votre formule. Il s'est tourné vers le mouvement syndical, vers les progressistes, vers les courants du socialisme alors dispersés, pour soutenir et porter le journal. Et il a réchappé effectivement d'une grande crise. Il faut savoir qu'à cette époque, un certain nombre de financiers étaient venus en lui proposant d'acheter le journal pour qu'il soutienne les emprunts russes. Évidemment, Jaurès a dit à ce prix, l'humanité ne doit plus exister. Bien, nous sommes en fait dans un choix qui est comparable. Nous avons choisi de garder l'indépendance d'idées, le regard critique du journal, en faire cette espèce de bouillonnement.
En 2001, Patrick Appelmüller, oui. L'humanité avait ouvert son capital. Hein. À l'époque, le PCF, le Parti communiste français, avait conservé 40% du capital et vous aviez fait entrer des investisseurs extérieurs. Vous aviez fait entrer TF1, Lagardère et les caisses d'épargne. Aujourd'hui, à quoi ressemble le capital de l'humanité ?
Le capital, il est détenu en majorité par ses lecteurs, par ses amis, par ses personnels.
La Société des Amis, hein, des soutiens de l'humanité. Je vous renvoie sur leur site, ils ont un site très actif. Le président, c'est Ernest Pignon-Ernest. Après, il y a des vice-présidents, Axel Kahn, Gérard Mordilla, Daniel Herrero, enfin, tout un tas de figures passionnantes.
Absolument. Et puis, nous avons également des actionnaires individuels qui... représentent les courants progressistes français. Il y a des syndicalistes, il y a des personnalités diverses.
Lagardère et TF1 et les caisses d'épargne sont restés au capital.
Ils ne sont plus
pourquoi ils en sont sortis?
Parce que la forme du journal et son capital trouvaient une expression plus claire avec ce que nous sommes aujourd'hui. Alors après, nous sommes prêts à accueillir des fonds, mais qui viendraient par exemple aussi de l'économie sociale et solidaire. Le journal porte aujourd'hui très régulièrement ces combats, les enjeux que porte l'économie sociale et solidaire. Bon, on fait des propositions, constitution d'une plateforme numérique qui pourrait les associer, nous associer en coopérative. Voilà, il y a des formes différentes que nous envisageons. Ces formes s'ajouteraient à cette souscription très importante que nous mettons en place, aux abonnements et à l'intervention que nous souhaitons des démocrates auprès des services.
On va faire un petit tour sur votre répondeur téléphonique.
Je suis enseignante et aussi parent d'élèves et je trouve qu'il est très dommage qu'on ne parle pas suffisamment de la réforme du collège dans les médias. On nous parle beaucoup de réforme de l'orthographe qui est vraiment un point de détail. Donc j'aimerais bien que l'humanité s'en empare.
Je peux dénoncer les mauvais traitements qui sont dans les maisons de retraite. Et pour mon mari, je m'occupe le maximum de lui. Mais tous les jours, j'ai un compte à arrêter.
Et voilà, depuis quelques mois, il y a un répondeur digne de celui de Daniel Mermet sur le site internet l'humanité.fr où on peut entendre donc vos lecteurs. Vos lecteurs, les personnalités qui vous lisent et qui vous soutiennent depuis 3 semaines, elles sont nombreuses à écrire des petits textes que vous publiez au fil des pages. Vous en avez regroupé certains dans le cahier central ce matin. J'en lis quelques-uns. Paul Morera, journaliste à la tête de Cache Investigation, par exemple, dit « C'est quasiment le seul quotidien aujourd'hui qui traite de la situation dans les entreprises du côté des salariés. La disparition de l'humanité signifierait pour moi un peu plus d'obscurité sur les hommes et les femmes qu'on a cessé de regarder. » Laurent Godet, écrivain, nous avons besoin d'autres voix que celles d'une Europe frileuse qui se referme sur elle-même, d'autres voix que celles qui nous disent que le socialisme doit se convertir au libéralisme, d'autres voix que celles qui utilisent la culture et le savoir comme des outils de domination sociale. Moi, je vous conseille de faire un petit tour sur le site, hein, hashtag humanité c'est nous, parce qu'il y a comme ça beaucoup de petites piqûres de rappel tout à fait vigoureuses. Est-ce que vous lisez le Figaro, Patrick Appelmüller ?
Régulièrement, tous les jours.
Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est devenu le journal des luttes sociales ?
C'est depuis longtemps un journal des luttes sociales, mais pris du côté du patronat. Mm-hmm. C'est effectivement le cas également de l'Opinion, qui a été créé à grand renfort de financement par des milieux patronaux. De ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de difficultés pour mettre de l'argent.
Est-ce que vous avez les moyens de lutter, Patrick Appelmüller ? Est-ce que c'est pas un cercle vicieux, terrifiant dans lequel vous êtes ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez encore les moyens de fournir un quotidien généraliste ? Quand on voit la force de frappe prodigieuse du Monde et du Figaro, qui ont des rédactions énormes, avec des outils à la fois sur le numérique, sur le papier, pour faire du reportage, de l'investigation, du data journalisme, etc., de la photo, de la vidéo, est-ce que vous avez encore les moyens de lutter ?
Nous n'avons pas assez de moyens, mais nous luttons. Et je dois saluer là la mobilisation des personnels de l'humanité et des journalistes en particulier. Pour ça, il y a un engagement très très fort de l'équipe de l'humanité pour sauver le journal. Et puis je crois que les témoignages qui sont donnés, qui sont aussi ceux de syndicalistes, hein, dans les témoignages que nous publions, montrent que ce journal est utile, est indispensable. Je prends la loi El Khomri. Quel est le seul journal qui a publié le texte intégral de la loi, décrypté article par article, pour permettre à des lecteurs de se faire leur propre idée, en y ajoutant d'ailleurs des contributions de sociologues, d'économistes, etc. C'est l'humanité sur 92 pages. Voilà, donc c'est cet apport du journal au mouvement social, à ceux qui n'admettent pas que la loi du MEDEF de M. Gattaz s'impose sur l'ensemble du champ social et de l'économie. Eh bien, je crois que nous leur fournissons des éléments, nous leur fournissons des armes, et que ce journal est donc utile. Il a besoin de plus de moyens, et c'est aussi
alors,
pour ça.
Il est en kiosque, ce journal, 1,90€, hein, votre prix a augmenté au début de l'année et ça n'a pas suffi. Et puis sur le site, moi je vous conseille les témoignages de Dany Laferrière, de Bernard Campan, qui m'a beaucoup surpris, qui a écrit un très beau texte vous concernant. C'est la fin de l'émission, bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia De Villers. Dans Un jour en France ce matin, alors que s'ouvre le congrès de la CGT, cette question, à quoi servent les syndicats ? Vos questions, vos témoignages.
Vous gardez mon invité ?
Mais oui, 01 45 24 7000. Un jour en France @radiofrance.com.
Et voilà, à l'instant M, Un jour en France qui s'enchaîne parfaitement comme d'habitude.